Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui fait sa rentrée aujourd'hui avec donc Sophie en face de moi qui va nous parler d'un livre de Naomi Klein, ou de Naomi Klein, comme moi je dirais. C'est la stratégie du choc. José est au platine et il vient de. C'est lui qui a choisi le morceau, un morceau de Gloria Parchoc, un groupe de Lyon qui s'intitule Naomi Klein. Ou Naomi Klein, comme dirait quelqu'un de plus branché que moi. Sophie va nous parler de ce livre qui est sorti il y a déjà quelques années, mais on s'est dit que c'était de l'actualité qui durait. puisque après tout, on a eu une illustration de la stratégie du choc très très récemment avec les attentats à Charlie Hebdo et les lois de merde qui ont été passées dans la foulée. Voilà, un petit choc et puis on fait passer ce qu'on veut comme loi. Donc, ou un gros choc et on fait passer ce qu'on veut comme loi. Alors Sophie, à toi.
Alors c'est parfaitement d'actualité. Naomi Klein, alors moi je dis Klein en fait.
Ah parce que t'es branchée.
Ouais c'est ça, mais tu fais comme tu veux après. Naomi Klein, c'est une journaliste canadienne qui aura à peu près 45 ans, une militante altermondialiste, vraiment très connue parmi les altermondialistes. Elle a écrit 3 livres vraiment majeurs et notamment le premier qui est Nos Logos, qui est peut-être le plus connu, je pense, où elle explique en fait que des multinationales comme Nike, par exemple, ou Starbucks, prolifèrent complètement, envahissent l'espace public et la société en général, menant à plus ou moins une diminution du rôle de l'État. Elle parle pas mal de la mondialisation, de l'exploitation des pays du Sud.
Elle montre comment le passage d'une stratégie de réclame et de publicité à une stratégie de marque s'est accompagné d'un changement de stratégie industrielle. C'est-à-dire qu'avant, on vendait un produit et on vendait la qualité du produit. Après, on vend une image.
Voilà,
et
on vend le logo.
On vend le logo. Et en fait, ça s'est accompagné d'une délocalisation et d'une baisse de la qualité. Une fois qu'on a l'image, on peut se permettre de faire de la merde et de la vendre.
Mais dans le monde entier.
Et dans le monde entier.
Voilà. Et puis Naomi Klein, c'est intéressant parce qu'en plus, elle vient vraiment d'une famille de militants. Par exemple, ses parents se sont barrés des États-Unis en protestation contre la guerre du Vietnam.
Son père était déserteur.
Ouais, je crois que son père était déserteur. Sa mère a fait un documentaire sur le porno qui a l'air très intéressant.
J'avais vu ça aussi.
Donc c'est vraiment toute la famille, même depuis les grands-parents qui étaient marxistes. C'est vraiment intéressant. Puis son livre, en fait, il est un peu long. C'est une sorte de pavé de 700 pages, extrêmement documenté.
Elle écrit que des pavés super documentés.
Ouais, mais très facile à lire. Très documenté, très facile à lire. Puis en plus, on peut sauter des chapitres. En fait, comme il y a beaucoup de faits, on arrive quand même à comprendre ce qu'elle dit. Il y a pas mal de perspectives historiques. Elle évoque de très, très, très nombreuses situations dans le monde entier. Donc là, dans le livre dont on va parler aujourd'hui, La stratégie du choc, dont le sous-titre est La montée d'un capitalisme du désastre. Elle parle du Chili, elle parle de la Russie, de l'Irak, du Sri Lanka, elle va vraiment vraiment partout et elle commence en fait à la Nouvelle-Orléans en décrivant une situation personnelle. Il y a beaucoup de chapitres qui commencent comme ça, elle a beaucoup enquêté sur place, elle s'est déplacée en Irak, elle parle de rencontres qu'elle a faites. Voilà, mais son vrai exemple de départ en fait, c'est pour expliquer le choc comme une stratégie, enfin l'exploitation du choc comme une stratégie. Elle parle d'un économiste qui s'appelle Milton Friedman et qui a donné naissance à toute une légion d'économistes, notamment ceux qu'on a appelés les Chicago Boys. Alors elle l'appelle le gourou du mouvement en faveur du capitalisme sans entrave, c'est plutôt pas mal dit. Tu voulais parler de Milton Friedman un peu.
Friedman, c'est juste c'est un héritier de la société du Mont-Pèlerin et de Friedrich Hayek, qui est un économiste autrichien qui s'est opposé à Keynes très très tôt, dès 46-47, avec un livre qui s'intitulait La route vers la servitude, où il disait que l'État-providence menait finalement au communisme.
Et ça, c'est pas bien.
Et ça, c'est mal, évidemment.
C'est mal.
Et alors qu'en 71, quelqu'un comme Nixon pouvait dire « Nous sommes tous keynésiens », à la suite de la crise, c'est les gens comme Friedman qui ont profité finalement de toutes les bases qui avaient été posées par Hayek en matière institutionnelle et théorique, et qui les ont exploitées, parce que Friedman c'était un petit théoricien comparé à Hayek, qui était lui quelqu'un de beaucoup plus costaud, mais il a réussi à imposer ses idées. Et ce qui est formidable, c'est que c'était quelqu'un qui à la même époque conseillait Margaret Thatcher et le général Pinochet.
Et Pinochet, voilà, donc au milieu des années 70.
C'est toujours les mêmes trucs, c'est relance de l'économie par l'offre, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les gens qui ont beaucoup d'argent en aient encore plus, soi-disant pour qu'ils investissent et qu'ils créent de l'emploi et qu'ils relancent la croissance.
Mais c'est pas ce qui se produit en fait.
Dans les faits, ils s'en mettent juste plein les poches.
Voilà. C'est-à-dire que Friedman, il a eu l'occasion en fait d'exploiter un choc de grande ampleur, il conseillait donc Pinochet. Il y a eu le coup d'état de Pinochet.
C'était un 11 septembre.
Un 11 septembre, voilà.
Donc 71.
Voilà. État de choc des Chiliens, du coup. Et alors, Friedman, en fait, a dit à Pinochet d'en profiter pour faire des transformations profondes dans l'économie, réduire les impôts, libéraliser les échanges commerciaux, diminuer les dépenses sociales, bien sûr, et déréglementer. C'est ce que Naomi Klein appelle la métamorphose capitaliste la plus extrême jamais tentée. Donc ça a donné lieu à l'école de Chicago, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'économistes qui travaillaient pour Pinochet, qui avaient étudié avec Friedman à Chicago. Et donc, Friedman disait que les chocs devaient être amples et soudains pour provoquer des réactions psychologiques qui, comme il disait, faciliteraient l'ajustement. C'est une sorte de traitement de choc. Et ça, ça a été repris par exemple en Irak dans un texte, une doctrine, la doctrine militaire américaine, qui s'appelle Shock and Awe, donc le choc et la terreur. Donc c'est vraiment l'idée du choc. Et alors à la mort de Friedman, c'est marrant parce que sa vision, c'était devenu une sorte d'orthodoxie, comme tu disais, en plus personne, enfin ça choquait vraiment personne. Plus personne ne faisait allusion même à la question des chocs. Et alors Friedman, il pensait, lui, que tout avait commencé à foutre le camp dès que les politiciens avaient écouté Keynes.
Dans les années 30.
Voilà, celui qui était à l'origine du New Deal, de l'État-providence moderne, en fait. Lui, il pensait, Friedman, que l'État ne devait surtout pas intervenir dans les marchés, puis on l'a beaucoup écouté. Au Chili, bien sûr, mais aussi après l'effondrement de l'URSS.
Ce qui est contradictoire, puisque de toute façon, toutes les stratégies néoclassiques comme ça à la Friedman reposent sur une action extrême de l'État pour libéraliser les marchés.
C'est-à-dire qu'il faut bien connaître des gens au niveau de l'État, en fait. Ouais. Et alors Naomi Klein, en fait, elle ne fait pas que raconter ce qui s'est passé. Hein. Elle conteste, en fait, la revendication selon laquelle la victoire d'un capitalisme déréglementé est née de la liberté. C'est-à-dire que l'argument de ces gens-là, c'est que c'est la liberté, le capitalisme. Mmh. Et elle conteste totalement le lien entre la libéralisation des marchés et la démocratie. Au contraire, pour elle, en fait, elle montre que ce capitalisme sauvage est né de la brutalité, de la coercition, et aux dépens, pour elle, du corps politique et du corps des gens aussi, d'ailleurs, puisqu'elle parle pas mal de torture. Pour elle, l'histoire du libre-marché est écrite, comme elle dit, à grand renfort d'électrochoc, littéralement parfois. Elle dit qu'on n'a jamais dit que les coups d'État, les guerres et les massacres qui avaient pour but d'installer et de maintenir en place des régimes qui étaient favorables à la libre entreprise, on n'a jamais dit que c'était des crimes capitalistes, en fait. Ça n'a jamais existé, cette appellation. Elle pense pas que les régimes capitalistes sont par nature violents. Elle dit pas ça, mais elle dit que rien ne dit non plus que les marchés doivent être fondamentalistes. Et le problème, en fait, selon elle, c'est que quand on fait comme prône Friedman, en fait, c'est qu'on essaye de faire table rase, de tout effacer.
C'est pour ouais, mais c'est le truc ici, c'est que pour Friedman, c'est la solution.
C'est la solution.
C'est-à-dire qu'il pense, il pense que justement les situations sont bloquées parce que les gens sont conservateurs, ont peur du marché, etc., etc. Et que si on met un gros coup de, s'ils prennent un gros
ça
coup,
débloque
de, un gros coup sur la tronche, ben ils seront tellement désorientés qu'on pourra tout faire passer.
Voilà.
Et après, ben entre l'exploitation d'un choc qui survient suite à une catastrophe plus ou moins naturelle, comme Katrina, à la production du choc, le pas peut être très très vite franchi. Et donc c'est pour ça qu'après, c'est facile de voir des complots partout aussi.
Ça a été pas mal exploité, mais en fait, elle est vraiment très très factuelle. Elle explique que ça se passe en trois temps, la déréglementation, la privatisation, puis la réduction des dépenses. Et alors, au début de sa partie 1, elle cite Orwell dans 1984. Nous allons vous presser jusqu'à ce que vous soyez vide, puis nous vous emplirons de nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de vider.
C'est ce que dit O'Brien à Winston quand il le torture.
On vide tout pour reconstruire après. Un démantèlement quasi total du gouvernement, c'est le projet. Le problème, par exemple, au Chili, c'est que aux élections de 1970, le Chili avait glissé à gauche.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui et non. Sur le côté démontage de l'État.
C'est ce qu'elle dit.
En fait, il faut bien voir comment ça marche, le démontage de l'État. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, le capitalisme a besoin d'un État très fort. Autrement, il ne peut pas tenir.
Mais en fait, elle dit qu'il en fait une coquille vide, en fait. C'est-à-dire qu'il existe, techniquement, il y a les institutions qui existent, mais elles sont complètement vides, puisqu'elles sont remplies
d'institutions privées,
de sous-traitants, voilà.
Qui pompent tous les impôts, mais il n'empêche qu'ils sont toujours au service de l'État.
Ouais,
c'est-à-dire que.
L'État est nécessaire pour.
C'est-à-dire que le monopole de la violence légitime est toujours là, et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que sans État, toutes ces constructions se cassent la gueule. Et c'est pas pour rien que le capitalisme est né dans des pays où il y avait des États déjà développés.
Mais en fait, c'est des coquilles vides. Elle utilise vraiment plein de fois cette expression. Et donc, le problème qu'avaient les Américains, en fait, certains Américains, c'est qu'en 1970, après les élections, le Chili avait glissé à gauche, à tel point qu'en fait, les principaux partis, ils étaient pour la nationalisation de la plus grande source de revenus du pays, qui étaient les mines de cuivre, contrôlées par des géants américains de l'industrie minière. Ce qui était donc un échec total des Chicago Boys, en fait, parce que non seulement le Chili était passé à gauche, mais plus personne ne voulait d'eux. Or là, coup de chance, il y a eu Nixon qui a été élu aux États-Unis, en fait, c'est là que tout est allé mieux pour les Chicago Boys. C'est-à-dire que Allende, quand même, avait remporté les élections en promettant la nationalisation. Et les multinationales américaines, donc, qui possédaient ces mines, avaient très peur de la contagion en Amérique latine. Donc, en fait, ça leur faisait vraiment très, très peur ce qui se passait au Chili. Puis, donc, il y a eu le coup d'État en 1973.
73, ah,
73,
j'ai dit 71,
je pense que c'est 73, il me semble, mais voilà, je pense. Ouais. Qui a été donc ce choc, l'occasion de ce choc. Et alors, quand elle parle du Chili, de ce qui s'est passé au Chili, elle parle pas mal de la torture. Elle fait un parallèle, en fait, entre la torture des gens à l'échelle individuelle et le choc et l'effroi qu'on peut provoquer à l'échelle d'un pays. Et donc, elle parle pas mal de la torture. Un exemple de torture très officiel maintenant, c'est l'exemple de la CIA qui a tenté d'effacer complètement les esprits humains, en fait, de voir si on pouvait faire une page blanche avec les esprits humains, comme on essayait de faire avec un pays, en fait. Elle fait un parallèle vraiment bien.
Ouais, dans ce passage du bouquin, c'est pas très très clair. On se demande si la CIA croyait réellement pouvoir réécrire une personnalité, ou si c'était simplement la mise au point
en
douce. Officieuse de méthode de torture psychologique.
En fait, elle dit, alors c'est pas très très clair, mais en fait, elle dit bien sûr le lavage de cerveau c'est un mythe. On peut pas faire ça, ça marche pas comme ça l'esprit humain. Mais c'était mieux en fait pour la CIA, c'était mieux que les gens croient que la CIA avait fait ça en y croyant plutôt que d'avouer qu'ils avaient financé des laboratoires de torture. c'était quand même un petit peu mieux. Donc à l'échelle des personnes en fait, elle s'est rendue chez une ancienne victime en fait canadienne de ces tortures, qui était SDF, qui avait beaucoup de problèmes dans sa vie et qui comprenait pas du tout ce qui lui arrivait. Elle avait beaucoup de trous de mémoire, des problèmes de santé, des crises de panique par exemple après avoir pris un petit choc électrique avec sa télécommande. Et en fait, c'était les indices qu'elle avait subi très très jeune des traumatismes. Et en fait, c'était une ancienne victime de ces essais de lavage de cerveau dans les années 50. En fait, la CIA avait financé les recherches d'une sorte de psychiatre canadien qui faisait des expériences étranges. Il administrait des doses massives de LSD et d'autres hallucinogènes à ses patients, des électrochocs, il les faisait dormir pendant des semaines. Le but était de les ramener au stade infantile. Alors, ce qui se produisait effectivement, c'est-à-dire qu'ils régressaient énormément. Et le financement de ces travaux de ce docteur qui s'appelait Ewan Cameron a été révélé par la CIA plus tard, en fait, dans les années 70. Et cette femme que rencontre Naomi Klein s'est aperçue qu'elle avait été effectivement une ancienne patiente de ce médecin à 18 ans. Elle avait beaucoup d'angoisse. Elle avait subi ce traitement de choc. Alors, les chercheurs de la CIA étaient très intéressés par les recherches de Cameron parce qu'il y avait le contexte de la guerre froide et ils avaient lancé un programme de recherche donc, sur les méthodes spéciales d'interrogatoire avec du harcèlement psychologique, intimidation, administration de drogue, etc. Il y avait deux projets principalement qui s'appelaient Bluebird et Artichoke, qui veut dire artichaut. Ça s'est rebaptisé, ça a été rebaptisé MK Ultra après. Et quand même, ça impliquait 80 établissements. Donc 44 universités, 12 hôpitaux qui ont participé. Et alors pourquoi tout ça se passait au Canada? Parce que quand même c'était pas très bien de faire des tentatives, des essais de cliniques sur des drogues sur le sol américain. Donc on faisait tout au Canada, on délocalisait en fait, c'était plutôt pas mal. Et le but était de désorienter totalement les patients pour faire table rase. Par exemple, on leur servait la soupe le matin et les céréales le soir pour les désorienter en termes de temps. On leur mettait des lunettes, on mettait des bruits blancs tout le temps pour qu'ils entendent toujours la même chose. Et bien sûr, c'est de la torture. Et en fait, elle fait un parallèle vraiment dès le début du livre entre ce genre de pratique, en rapprochant avec les pratiques de torture de Pinochet, et la même pratique à l'échelle d'un pays.
C'est-à-dire la tentative de table rase, que ce soit d'une individualité ou d'un pays. Effectivement, c'est intéressant parce que comme elle prend le cas des individus, elle montre que dans le cas des individus, ça ne peut pas fonctionner parce que la personnalité humaine,
l'esprit humain ne marche pas comme ça, en fait.
Elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Et que tout ce que tu as abouti à faire, c'est à faire des gens qui souffrent et qui sont démolis.
Mais on ne reconstruit rien après, c'est ça le problème en fait.
Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'elle montrera après que pour les pays, c'est exactement la même chose.
C'est exactement pareil, on détruit tout, mais on ne reconstruit rien du tout.
On reconstruit très très mal, et tout dysfonctionne parce que on a foutu en l'air des choses qui avaient été mises en place petit à petit, patiemment. Et bon, ça ne fonctionnait pas toujours très très bien, mais souvent mieux qu'après un passage de
B-52. Voilà.
Tu veux qu'on fasse une petite pause musicale?
On peut faire une petite pause musicale, je pense.
D'accord.
Ouais.
Nya 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 À chaque nouvelle
réforme, à chaque nouvelle provoque. Ce que je cherche est un électrochoc, un mouvement loufoque, baroque, sans équivoque. Sais-tu qu'ici, à Grenoble, on suffoque, qu'entre les dernières bicoques, les liens se disloquent. Les résidences poussent comme des staphylocoques, et les élus font les coques dans les colloques. Ça jacte, ça claque et ça arnaque. Toutes ces tronches de cac me font mal à l'estomac. Ce dont je rêve, c'est l'union des macaques pour une contre-attaque paradisiaque. Ric-crac, en vrac ou insomniaque, foutrac, orjac, monomaniaque. J'aimerais que nos débats soient en bel habitat. Une traque, un miracle, un grand spectacle.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio Sandio, la radio Sandio, ni maître ni publicité. Et donc c'est Michel au micro avec Sophie qui nous parle d'un livre de Naomi Klein, La stratégie du choc, et José au platine, donc qui vient de diffuser un morceau de Mon ex. Qui s'intitule État de choc. Et en fait, pour ceux qui connaissent et qui apprécient, je signale que c'est une reprise de DX, donc un groupe néerlandais, je crois. C'était dans un album, un vieil album des années 90, les meilleures années musicalement parlant, comme vous le savez. Un groupe, donc DX, qui jouait avec le violoncelliste ou le violoniste Tom Cora. Et voilà, c'est le morceau s'intitulait State of Shock. Donc c'était tout à fait en coordination avec le livre de Naomi Klein, La stratégie du choc. Alors, on va reprendre un petit peu les choses. Voilà,
on va parler moins vite. Ils ont téléphoné pour dire qu'il faut que je parle moins vite.
c'est le stress de la rentrée. Et donc, voilà, ce qu'on signalait, c'est que donc, la thèse de Naomi Klein, c'est que nos grands réformateurs actuels privilégient finalement des stratégies qui sont fondées sur des chocs, provoqués intentionnellement ou non. Chocs qui permettent, soi-disant, de repartir à zéro, puisqu'ils vont profiter de la désorientation générale pour faire passer de nouvelles lois.
Qui les arrangent. Dans le sens de ce qu'ils cherchent.
Voilà, donc, et en particulier des lois qui vont dans le sens d'une dérégulation totale. Mais alors, la dérégulation totale, c'est souvent une dérégulation aussi au niveau des rapports entre les gens, parce que, quoi qu'on en dise, le capitalisme implique des modèles sociaux. Et donc, il faut y aller très très fort, parfois, pour casser des solidarités locales, pour casser des organisations, etc. etc. Et donc, on était parti de Milton Friedman, qui, lui, avait adoré Pinochet. Et Margaret Thatcher,
réciproquement,
ils s'entendaient très bien sous tous ces gens, et qui avait conseillé donc à Pinochet d'y aller à fond dans le néolibéralisme après le coup d'État, qui avait été soutenu par les États-Unis, comme chacun sait, à la suite d'un embargo économique qui avait plongé le Chili dans la panade et qui avait mis Allende, qui avait affaibli Allende. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, on en reparlera plus tard, c'est que Friedman, dans ses dernières heures ou dans ses derniers jours ou dans ses derniers mois, je sais pas exactement, il est mort peu de temps après, avait aussi parlé de Katrina comme quand même une opportunité formidable,
pour la Nouvelle
Orléans.
On va en parler.
Bon, ce genre de bâtard, pardon.
c'est pas lui, c'est Rumsfeld le bâtard en fait, mais ça c'est Nixon qui l'a dit.
Oui.
On va voir.
Mais c'est Friedman qui avait dit que Katrina c'est une chance, non?
Oui, mais c'est pas le seul, il y en a plein qui ont dit ça. Oui, c'était ce que tu disais sur le fait de casser les solidarités locales en fait, ça se fait à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Elle parle pas mal des questions de torture en fait, notamment au Chili. quand elle dit que finalement, en fait, la pire forme de torture, c'était pas forcément ce qui marchait le mieux, entre guillemets, c'était pas forcément le but n'était pas forcément d'extraire des renseignements aux gens, en fait. Le but, c'était vraiment de casser la solidarité entre les gens. Et par exemple, ce qui marchait le mieux, entre guillemets, c'était lorsque, par exemple, on arrêtait un résistant, quelqu'un qui, un opposant. Elle raconte le cas de cet opposant qui a été arrêté. Puis on avait regardé dans son agenda, il avait marqué le rendez-vous, un rendez-vous avec un autre opposant. Mmh. Et on lui a dit, en fait, voilà, tu vois, ton copain, on l'a arrêté parce que tu avais marqué dans ton... C'était de ta faute, en fait, tu avais marqué dans l'agenda. Et en fait, c'était ça qui l'avait fait le plus craquer, en fait. C'était le fait d'être responsable
de l'arrestation de son
camarade. Ouais, c'était ça qui avait cassé... Enfin, voilà. Mmh. De penser que son camarade avait pensé qu'il l'avait intentionnellement vendu.
Oh, ils ont beaucoup innové au Chili. Hein.
C'est un vrai laboratoire.
La stratégie de disparition aussi des opposants, c'est-à-dire on fait disparaître complètement les personnes au lieu d'exhiber nos prises.
Elle en parle pas mal, ça.
C'était effectivement. Et ça terrorise complètement les gens. Alors là, tu voulais parler de quoi? Parce qu'elle aborde tellement de sujets entre la Russie, l'Afrique du Sud.
Énormément de sujets. Elle va au Sri Lanka, elle va en Afrique du Sud, en Russie, où elle explique qu'à chaque fois, c'est un peu le même mécanisme. Mais je voulais parler de l'Irak. Enfin, il y a deux exemples dont je voudrais parler. Je voudrais parler principalement de l'Irak avant et de ce qui a suivi en fait les événements du 11 septembre 2001. Donc, invasion de l'Irak et puis tout un tas de modifications aux États-Unis. Et comment ça s'est passé en fait, puisque ça nous rappelle des choses assez actuelles en France. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là qu'elle développe beaucoup, mais qui me paraissait intéressant. L'Irak et la guerre contre la terreur après le 11 septembre. Elle nous parle d'abord d'un personnage qui s'appelle Donald Rumsfeld.
Assez connu.
Qui était le secrétaire à la défense. À propos de qui, donc, Richard Nixon avait dit déjà en 1971, c'est un petit salaud sans pitié. Aucun doute à ce sujet. Donc c'est quand même assez intéressant.
Venant de Nixon,
c'est génial.
Ça vaut son pesant.
C'est vraiment génial. Donald Rumsfeld, il avait une réputation d'être vraiment tyrannique, totalement arrogant, puis dissimulateur en plus, ce qui était du coup des atouts en fait, là où il était. Et en 2001, en fait, sa mission, c'était de réinventer la guerre au 21e siècle pour en faire plutôt que quelque chose de physique, une manifestation psychologique, pour en faire, dit Naomi Klein, un spectacle plutôt qu'une lutte. Alors, il a été contraint à démissionner en 2006 quand même. Mais son idée, c'était de tout privatiser. Donc, ça rejoint vraiment les idées de Friedman. Rumsfeld, en fait, il cherchait pas du tout à faire économiser de l'argent aux contribuables, même s'il baissait beaucoup les budgets. Mais en revanche, il réclamait au Congrès, il a obtenu, une hausse budgétaire de 11%. Le but étant, bien sûr, de redistribuer la fortune vers le haut. Alors que tous les services de la défense ont dû réduire leurs effectifs de 15%.
Bah, c'est toujours la même chose en fait. Il y avait un bouquin sur les prisons de la misère d'un sociologue français dont le nom m'échappe sur le moment, qui montrait bien que par exemple toute la politique sociale aux États-Unis qui avait été complètement sabrée dans les années 70 et 80, en fait tout l'argent qui était investi là avait été dans les allocations aux pauvres, etc. était passé pour entretenir des prisons privées.
Ah oui, parce que
et les prisons privées coûtaient, non, elles coûtaient plus cher en réalité.
Plus cher.
C'est juste un tour de passe-passe. On dit, les pauvres nous coûtent beaucoup trop cher, et en plus, comme on leur donne de l'argent, ils en profitent pour glander, donc on va leur couper les vivres. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le même temps? Ben, on donne beaucoup plus d'argent aux constructeurs et aux gérants de prisons privées. Et Rumsfeld, c'est exactement la même stratégie. C'est, on tape sur l'État d'un côté, mais...
On donne plus d'argent.
Mais on donne plus d'argent, plus d'argent, compte, dans un autre secteur. C'est aussi simple que ça.
C'est assez simple en fait.
C'est pour ça que le libéralisme ne s'oppose pas à l'État, quoi qu'on en dise. Il fonctionne main dans la main.
Mais pourtant, elle dit quand même que ça remet en question le principe d'État-nation.
Oui, parce que les nations, ils s'en foutent.
C'est-à-dire que, par exemple, l'armée, la police, les pompiers, les prisons, la surveillance des frontières, le renseignement, la lutte contre les maladies...
Bah, bon. C'est les droits régaliens.
Voilà.
C'est-à-dire... mais après, à la limite, c'est pas très très grave. Il y a beaucoup d'États, beaucoup de rois, par exemple, qui fonctionnaient avec des armées de mercenaires. Et ils avaient toujours les droits régaliens de justice, d'armée et de police.
Et là, en fait, l'expression qu'elle emploie le plus souvent, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que les institutions, elles existent encore, mais elles sont totalement vidées de leur substance, puisque on leur a donné le pouvoir, en fait, de tout sous-traiter. De tout sous-traiter à des entreprises privées qui n'ont.
Bah, je trouve qu'il y a une meilleure image dans le bouquin, peut-être, que coquille vide.
C'est quand
elle dit qu'en Irak, ils ont transformé l'État en distributeur automatique d'argent pour les entreprises privées.
Ah oui. Ah ouais, c'est vrai.
Et j'aime beaucoup le côté, là on voit vraiment le détournement de fonds.
Totalement, ouais.
C'est-à-dire que la guerre en Irak a rapporté énormément aux entreprises privées américaines. Elle a beaucoup coûté, parce qu'on dit une guerre ça coûte cher. Mais c'est des conneries. Une guerre ça rapporte énormément d'argent. Parce qu'il faut considérer que par exemple un bombardement, c'est du déstockage. Parce que les bombes, ben voilà,
ah oui, tiens, le dit, ça. Ouais,
les bombes, ça sert à rien, on les garde, tout ça. Et tant qu'on les fait pas péter sur la tronche de pauvres gens, ben on n'en rachète pas des nouvelles.
Oui, il a dit que la guerre contre la terreur, en fait, enfin, guerre contre le terrorisme, en fait, c'était une guerre qui est impossible à gagner, parce que c'est quoi la terreur, en fait, contre qui on va gagner concrètement? Donc personne. Mais... la terreur va jamais dire j'ai perdu la guerre, ok, vous avez gagné. Donc on peut pas gagner la guerre contre la terreur, mais par contre, du point de vue économique, il a dit c'est impossible à perdre. Ce qui est vraiment intéressant.
Ça dépend pour qui.
Mais pour les États-Unis, pour le coup. Donc,
pour certaines grandes entreprises privées américaines qui sont comme celles qui... parce qu'en plus, oui, ils sont grandioses de cynisme en Irak.
Oui, c'est très cynique.
C'est-à-dire que c'est limite les mêmes qui balancent les bombes qui vont reconstruire ensuite les immeubles qu'ils ont détruits. Et donc c'est double bénef.
Mais ça transpire de cynisme. En fait, tous les exemples qu'elle donne, c'est vraiment le...
Ils gagnent de l'argent en bombardant et ils gagnent de l'argent en reconstruisant. Moi je trouve qu'ils devraient, après ils ont déjà fait, il leur reste plus qu'à construire des hôpitaux pour empocher de l'argent.
Alors, c'est un peu
en guérissant ceux qu'ils ont blessés
avec leurs
bombes.
C'est un peu ce qu'ils font plus ou moins à la Nouvelle-Orléans en fait, mais plus ou moins. Et donc sur Rumsfeld en fait c'était un peu l'artisan de tout ça, enfin l'un des artisans de tout ça. Donc quand Nixon dit que c'est un petit salaud en fait, on peut penser à plusieurs choses. Il a mis à profit des contacts politiques à la Food and Drug Administration. Donc c'est l'institution qui homologue les médicaments, pour faire homologuer l'aspartame en fait, ce qui est vraiment controversé, mais c'est lui qui a fait homologuer l'aspartame, il a empoché personnellement 12 millions de dollars pour ça. C'est lui qui a fait breveter le Tamiflu aussi, contre la grippe aviaire. Il s'est débrouillé pour que ça soit breveté, donc là aussi évidemment. Donc ça c'est le premier, donc petit salaud, sans pitié. Puis il y en a un autre, c'est Dick Cheney, qui était le vice-président,
ancien vice-président. Comment s'appelait la boîte?
Ah, c'était Halliburton.
C'est Halliburton.
Ouais, en 1995, il a été PDG de Halliburton. Alors, il y a plein d'histoires intéressantes sur Halliburton. Quand il était PDG, en fait, il a fait doubler les sommes que la société soutirait au trésor public américain. Il est passé de 1,2 à 2,3 millions de dollars. Et alors, Halliburton, c'est énorme, Halliburton. Elle explique comment Halliburton construisait des sortes de villes, alors dans les Balkans. Et puis aussi en Irak, il y avait des sortes de villes pour les Américains, enfin pour les soldats américains, les bases Halliburton, avec de l'électricité, les fast-foods, les supermarchés, le grand luxe en fait. Donc finalement, de quoi on se plaint, puisqu'on vit dans une ville Halliburton. Halliburton, c'est aussi eux qui ont construit la prison de Guantanamo. C'est les constructeurs de Guantanamo, donc qui ont embauché énormément d'argent. Et ce monsieur, Dick Cheney, a été vice-président de 2001 à 2009. Et même avant ça, en fait, avant d'être PDG de Halliburton, il était secrétaire de la défense entre 1989 et 1993. Donc c'est l'un des autres artisans de
la mise en place de la stratégie du choc en Irak.
En Irak, après le 11 septembre. Le 11 septembre, en fait, c'était l'occasion. Mais le 11 septembre a révélé des choses intéressantes, c'est-à-dire que lors du 11 septembre, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de services qui avaient déjà été privatisés, et on s'est rendu compte à quel point ça marchait pas, à quel point ça marchait mal. Par exemple, lorsque les communications radio entre les policiers et les pompiers de New York ont été rompues au beau milieu de l'opération de sauvetage. Oups. Lorsque les contrôleurs aériens ont remarqué trop tard que les avions avaient dévié de leur course. Et lorsque les auteurs des attentats avaient déjà franchi les postes de sécurité sans encombre.
Et c'était pas au même moment que Rumsfeld faisait un discours tonitruant au Pentagone en dénonçant l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, en fait, c'était les employés du Pentagone.
C'était exactement
ça. Il fallait virer de toute urgence parce qu'ils étaient en train de pomper le contribuable américain et la nation américaine de toute sa sève. Alors qu'en fait, bon, il s'agissait juste de les virer pour mettre de l'argent ailleurs,
pour payer d'autres entreprises
privées. Pour en payer d'autres.
Donc il y avait beaucoup de problèmes en fait liés à cette privatisation qui avait déjà été effectuée avant le 11 septembre. Donc les contrôles dans les aéroports par exemple, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient contrôleurs dans les aéroports qui étaient moins payés que ceux qui travaillaient dans les comptoirs alimentaires. Reagan par exemple avait fait beaucoup d'attaques contre le syndicat des contrôleurs aériens.
Oh bah, il les a tous virés.
Voilà. Et puis ces déréglementations en fait avaient amené à un relâchement des mesures de sécurité. Et en fait Naomi Klein elle explique que ce qui était important finalement c'est que le 10 septembre 2001 les vols étaient pas chers, le reste on s'en foutait plus ou moins. En fait, le 12 c'était plus la même histoire, mais le 10 on s'en foutait. Après il y a eu l'anthrax aussi.
Ah oui.
Donc il y avait des problèmes, on s'est rendu compte que la poste toute privatisée finalement c'était peut-être pas génial. Donc en fait là on en était à se dire aux États-Unis qu'il fallait faire une sorte de New Deal finalement. Mais c'est pas ce qui s'est produit du tout.
Bah non, parce qu'il y avait Bush, Rumsfeld
et Cheney. Rumsfeld et Cheney qui voulaient pas ça du tout. Pour eux, c'était vraiment une période qui était potentiellement très lucrative. C'était une période de désorientation collective.
C'est ça qu'on a du mal souvent à comprendre, je trouve. Et il y a beaucoup de gens qui le voient pas. quand on discute comme ça, c'est que à la limite ils comprennent pas pourquoi ces types-là qui sont au pouvoir, qui sont responsables, qui sont riches, qui ont réussi dans la vie, ont l'air d'être aussi irrationnels et destructeurs.
C'est pas du tout le cas.
Et en fait, ils sont pas du tout irrationnels et destructeurs. Enfin, ici, ils détruisent des tas de choses.
Mais ils sont très rationnels.
Et ils sont très rationnels et très très calculateurs. Mmh. Et c'est comme ce ministre français de droite qui avait déclaré que le problème, c'était que les services publics fonctionnaient trop bien.
C'était qui?
Je sais plus. Tu sais, ils sont interchangeables, ces gens-là. Je sais pas, un copé quelconque. Enfin bon, on s'en fout. C'est pas comme s'ils étaient vraiment importants en tant qu'individus. Ils sont plutôt importants en tant que meute. Mais bon, et ça, c'est signé. C'est-à-dire que le fond du problème, c'est pas l'efficacité.
Non, c'est pas.
C'est où va l'argent. Mm-hmm. C'est toujours pareil.
C'est pour ça que c'est important les contacts politiques qu'ont ces gens-là. Par exemple, si on regarde la CIA, très vite 70% du budget de la CIA a été alloué à des entrepreneurs privés, ce qui est quand même incroyable. Et en fait, pour motiver l'invasion de l'Irak, Cheney a expliqué la doctrine du 1%. C'est-à-dire que s'il y avait 1% de chance pour que l'Amérique soit menacée, l'Amérique devait réagir comme si c'était 100%. Et ça s'est avéré vraiment très très positif pour les fabricants de dispositifs de sécurité de pointe, de collecte des données, d'analyse des données. Et alors elle donne un exemple assez intéressant, parce que souvent c'était mal fait, c'était des gens qui n'étaient pas très très bien payés, qui faisaient le travail de base, et c'était pas très très bien fait. Donc elle explique que par exemple il fallait vraiment analyser les données de sécurité. Par exemple, elle prend le prénom Mohamed. Il y avait un logiciel en fait qui contenait des centaines d'orthographes possibles du nom Mohamed et qui pouvait analyser des tétraoctets d'informations en une seconde. Ce qui a l'air très très impressionnant, sauf si on se trompe de Mohamed. Comme on l'a fait un certain nombre de fois en Irak, en Afghanistan et dans la banlieue de Toronto. Puis du coup, il y a un certain nombre de bergers en fait qui se sont retrouvés à Guantanamo, qui n'ont pas compris pourquoi. En fait, elle explique vraiment que, par exemple, en 2001, il y avait deux cabinets de lobbying qui étaient axés sur la sécurité. En 2006, il y en avait 543. C'est vraiment, vraiment.
Oui, il y a eu un marché hallucinant de la sécurité qui s'est développé dans ces années-là. En Israël aussi, c'est quelque chose de formidable. Elle
c'est,
en parle.
C'est fou.
Je crois que c'est elle qui
ça,
en parle.
Ça, je me souviens pas de ce passage-là sur Israël.
Bah, c'est-à-dire qu'ils ont complètement surfé sur la vague terroriste et sécuritaire, et ils sont relancés dans la technologie de pointe sécuritaire.
Mais qui marche pas très bien en fait. La reconnaissance faciale, par exemple,
il faut regarder
la caméra.
Elle se vend super bien,
ça suffit. Il y a d'autres entreprises, donc elle reparle d'Ali Burton, qui a construit même des villes en Irak dans ce qu'on appelait les zones vertes.
Les compounds ou les trucs comme ça.
Il y avait tout, il y avait tout ce qu'il fallait. Et de Boeing qui a servi d'agence de voyage pour la CIA. Donc des entreprises privées qui se sont fait énormément d'argent sur ce choc, en fait, sur le choc du 11 septembre. Ce qui fait beaucoup réfléchir, en fait.
En fait, moi j'ai l'impression, malgré tout, tu vois, on voit que l'État peut fonctionner tout à fait à base de, comment dire, de services privés. Enfin, ça fonctionne d'une certaine manière. Et en France, on est peut-être un peu trop axé sur la distinction entre services publics et entreprises privées. À mon avis, ce qui est beaucoup plus important, c'est la rigueur, c'est quel est le but de ces trucs-là. C'est-à-dire que si le but c'est le profit pur et dur, un service public peut tout à fait fonctionner comme une entreprise privée, de manière aussi dégueulasse. T'as qu'à voir ce qu'ils vont faire dans les hôpitaux français ou ce qu'ils sont plus ou moins en train d'essayer de faire, c'est justement d'essayer de rendre l'hôpital rentable. Et à partir du moment où l'hôpital est rentable, tu peux avoir des fonctionnaires dedans, ça change plus rien.
Non, ça change rien, c'est la rentabilité, la question de la rentabilité.
C'est pour ça que je pense qu'elle insiste peut-être un peu trop sur cette distinction, parce que ce qu'il faudrait comprendre,
elle insiste beaucoup, c'est vrai.
Il faudrait peut-être comprendre comment justement l'État peut très très bien fonctionner grâce à ça, et comment le capitalisme a besoin de ce type d'État.
Alors ceci dit, pour elle dit que ça fonctionne pas très très bien, c'est-à-dire quand même elle prend des exemples où ça marchait pas trop.
Oui, ça fonctionne pas trop. Ça dépend de quel point de vue tu te places après. C'est-à-dire que tant qu'il y a pas de gros problèmes, ça fonctionne.
Oui.
Je pense que c'est ça l'idée. Et de temps en temps, il y a un gros problème, et là on s'aperçoit que rien ne fonctionne. Mais dans ces cas-là, ils s'en sortent en disant c'est parce qu'on n'avait pas assez libéralisé. C'est parce qu'il y a encore trop de fonctionnaires. Et il faut toujours aller plus avant. Et quand ce sera totalement libéralisé, mais en fait, totalement libéralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'État a perdu en pouvoir. En fait, il en a souvent gagné. Parce que dans le même temps, il passe des lois complètement liberticides, où l'État fédéral américain, empiète sur les libertés individuelles de façon démente.
Oui, et même la seule chose qui a fait que ça a été possible, en fait, ça, c'est finalement l'augmentation des pouvoirs de l'exécutif.
C'est ça.
Lors de la guerre contre la terreur. Si on va faire la guerre contre la terreur, c'est vrai que c'est facile de convaincre les citoyens qu'il faut donner au moins les pleins pouvoirs à l'État, au gouvernement, pour faire la guerre.
Et c'est vrai que le côté coquille vide, c'est comme si l'état devenait faible, alors qu'en fait il devient fort.
Ouais, c'est vrai.
Et il devient de plus en plus fort.
Mais c'est une métaphore qu'elle utilise vraiment souvent,
ouais,
en fait.
Mais je trouve que là, y a...
ça se justifie un peu. Si, elle, moi je vois ce qu'elle veut dire. Je vois ce qu'elle veut dire quand elle dit que la CIA c'est devenue une coquille vide, puisqu'elle sous-traitait tout. C'est vraiment ça, c'est qu'il servait finalement uniquement de chambre d'enregistrement sur ce que faisaient des entreprises à qui il sous-traitait. C'est ça que ça veut dire. Donc peut-être qu'il y a deux sens en fait quand elle dit coquille vide, je sais pas. Mais en tout cas, elle analyse vraiment, vraiment de façon très intéressante cette question de l'Irak. En fait, elle dit que jusque-là, en fait, l'Irak c'était une nouvelle phase. En fait, elle appelle auto-référentielle, c'est-à-dire jusque-là on profitait des désastres et des crises pour imposer après coup. Et là, en fait, elle dit, les institutions qui avaient le pouvoir en fait, les institutions avaient vraiment le pouvoir de créer des événements cataclysmiques et d'y répondre. On crée les événements, on y répond.
On a besoin de catastrophes, donc on ne va plus attendre qu'elles se produisent, on va les produire,
voilà,
nous-mêmes. Et on peut le faire, puisque de toute façon c'est dans un pays super éloigné qui, comme chacun sait, nous menace directement. Bon, quand même, on l'a pas dit, hein, mais une des plus grandes blagues des années 2000, c'était la phrase « L'Irak menace les États-Unis ». Normalement, tout le monde devrait être mort de rire en entendant ça. Hein. C'est comme le Vatican menace la Russie, ou je sais pas moi, la Belgique menace les États-Unis, l'Ouganda veut envahir
tu sais
la
pas,
Chine.
La Belgique, enfin bon, tu vois, c'est
l'Irak menace les États-Unis, c'est du même niveau comique. Mais il y a des tas de gens pour y croire. C'est quand même assez surprenant. Excuse-moi.
Non, non, il n'y a pas de problème. Je sais plus ce que je voulais dire, en fait.
Voilà, voilà, à cause de ma blague. Voilà, t'as perdu.
C'est bien ta blague, c'est pas grave.
T'as perdu le fil. T'en étais à l'Irak à la production du choc nécessaire. Construire un nouveau pays à partir de rien. Et voilà. C'est vrai qu'ils avaient...
Mais même localement, localement, en fait, elle explique, alors pas en Irak, elle parle de l'Afghanistan, mais à peu près au même moment, en fait, elle explique comment la question du choc a été exploitée aussi en Afghanistan, localement, sur des Afghans qui finalement...
C'est 2001 et 2003.
Ouais, finalement, 2001, comment les Afghans, en fait, comment le citoyen afghan allait dénoncer son voisin pour 5 000 $, en fait. Pour 5 000 $, il le faisait.
Bah oui, voilà. Si tu t'adresses à des gens misérables qui n'ont plus rien,
pour 5 000 $,
ça va craquer.
C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de bergers afghans qui ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient à Guantanamo, qui était à Guantanamo, construit par Ali Burton.
Oui.
Voilà.
On fait une petite pause musicale peut-être ? T'en as fini
sur
avec
l'Irak ? Sur l'Irak, ouais, je suis fini sur l'Irak. On
ok,
peut
bon, alors
plein
on fait une pause musicale.
Disaster, I'm the master of disaster. Crying in the rain, ooh, you're so ashamed. But I'm the master of disaster. I'm telling you, girl, you gotta touch it faster. I know what you're after, the master of disaster. The master of disaster. Let me touch you good down in Hollywood. You know what I'm after. I'm the master of disaster. Faster, I'm the master of disaster. Alright, you're tight. Let me put the grease all over your skin. Let me put it in. You scream. It's your nightmare dream. I'm the master of disaster. Do it faster. Take it slow. Bend. Break. How much can you take? I'm master of disaster. Does your body ache? And the reptiles and the crocodiles who smile.
Bonjour, vous écoutez, bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est la rentrée, on n'arrête pas de faire des erreurs. voilà, donc c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie, ou quatrième et dernière partie, enfin une, voilà, une partie, ce qui
une
sera
partie,
la dernière. Et vous venez d'entendre Kim Foley, le Dorian Gray du rock'n'roll, un américain, musicien, producteur, qui a fait plein de choses, qui a dû mourir il y a 2 ans à peu près. C'est un morceau qui s'intitule Masters of Disasters, donc le maître des désastres. Voilà, donc ce soir, Sophie nous parle d'un livre de Naomi Klein, La stratégie du choc. Et dans la partie précédente, nous avons pu voir comment l'Irak avait servi de, en quelque sorte, de tube à essai pour les théoriciens du néolibéralisme et du choc nécessaire pour instituer cette dérégulation totale de l'économie. Et l'Irak, oui, puisque en Irak, on pouvait produire le choc.
C'était tout à fait possible.
Et c'était tout à fait possible. Et essayer de reconstruire une société rêvée à partir de là. Donc on peut se demander s'ils sont complètement idiots, complètement cyniques ou complètement idéalistes, ou les trois.
Idéalistes selon eux, oui, et selon leur
Bon, parce que, évidemment, ça a complètement échoué. Les hôpitaux qui sont construits en Irak étaient pourris, ne fonctionnaient pas, et c'était une vraie catastrophe. Hein, parce que, après avoir bombardé des hôpitaux qui fonctionnaient peut-être plus ou moins bien sous l'abominable dictateur Saddam Hussein, allez savoir, pauvres Irakiens, ils ont vraiment, ils sont tombés de Caribe en Scylla. Alors, troisième et dernière partie, de quoi est-ce que tu voulais nous parler?
Alors c'était bien le titre de la chanson en fait, c'était Les Maîtres du Désastre, oui. C'est ça, c'était vraiment pas mal parce que elle a une partie sur une partie qui est vraiment très intéressante sur l'ouragan Katrina, qu'elle a intitulé L'Apartheid du Désastre. Donc c'est, voilà, c'est vraiment génial. Pourquoi j'ai choisi de prendre cet exemple-là parmi les 10, 20, 30 qu'elle développe dans le livre, qui fait 700 pages, hein,
oui, je le rappelle. C'est un gros pavé.
C'est parce qu'en fait là ça fait 10 ans Katrina, et que Barack Obama, quand il a fait un discours sur Katrina, a dit que c'était largement un désastre créé par des hommes, en fait. Un désastre créé par des gens. Donc, finalement, voilà, Barack Obama est d'accord aussi, tout le monde est d'accord. Donc, on va parler de l'apartheid du désastre. Elle commence...
On peut peut-être dire rapidement pourquoi c'est un désastre... C'est pas tant que ça une catastrophe naturelle.
Alors, il y a eu la catastrophe naturelle, quand
oui,
même.
Il y a elle une a catastrophe existé, naturelle, sauf mais que... sauf qu'elle s'est greffée.
Elle s'est greffée sur des problèmes qui existaient déjà, c'est-à-dire les digues qui étaient censées arrêter l'eau, en fait.
Les inondations, les digues qui étaient pourries.
Qui étaient complètement pourries, qui tenaient vraiment pas.
Et puis sans doute beaucoup de maisons construites en zone inondable, au mépris à peu près de toutes les règles de sécurité.
Voilà, des maisons de noirs pauvres, en fait.
Voilà.
Elle raconte, hein, vraiment que c'était largement un désastre, effectivement, fait par des hommes, puisque... Un an avant Katrina, en fait, à l'été 2004, il y avait cette agence qui s'appelait l'Agence fédérale de gestion des urgences, la FEMA, F-E-M-A. La Louisiane avait demandé à la FEMA, en 2004, de l'argent pour prévoir, au cas où il y aurait un désastre, en fait, au cas où il se passerait quelque chose, pour prévoir, soit pour aider les gens, soit pour consolider les digues. En tous les cas, la Louisiane avait demandé de l'argent qui lui avait été refusé. Et pourtant, en fait, le même été, elle explique que la FEMA, l'agence, avait octroyé un contrat de $500,000 à une entreprise privée pour élaborer un plan d'urgence en cas de désastre. Voilà, le même été, en fait. Mais donc, du coup, ça n'a pas trop marché. On voit bien que ça n'a pas tellement marché. Elle commence, en fait, par un épisode où elle a raconté... rencontré un rescapé, hein, de la catastrophe. Et puis, elle-même raconte qu'elle a eu un accident de voiture à la Nouvelle-Orléans. Elle ne comprend pas trop ce qui s'est passé parce que les feux tricolores ne marchaient pas. Donc, elle a percuté une autre voiture. Et elle s'est réveillée dans un hôpital. Alors, en allant à l'hôpital, elle avait très peur, elle s'attendait à se retrouver dans un hôpital qui s'appelle le Charity, dont elle savait qu'il était complètement pourri, c'était une infrastructure qui fonctionnait pas du tout avant la catastrophe, qui était déjà vraiment, vraiment sous-effectif, sous-moyen, tout ce qu'on veut, et qui après la catastrophe, évidemment, était complètement submergée, on pouvait vraiment plus rien faire, donc elle a vraiment flippé de se retrouver à l'hôpital Charity. En fait, pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé, elle s'est retrouvée dans une chambre où il y avait quasiment personne, tout était blanc, magnifique, elle dit ça ressemblait un peu à un spa, en fait. C'était l'hôpital Ochsner où le médecin l'a soignée, et elle lui a posé quelques petites questions à ce médecin. Elle lui a dit, mais en fait, vous allez aider les réfugiés, là, vous faites quoi? Il était très très surpris par la question et un peu gêné, parce qu'il ne voyait pas du tout ces réfugiés-là comme des patients, parce que ce n'était pas du tout les mêmes gens. C'était pas les mêmes personnes qui venaient. Parce que déjà, Donc, ceux qui avaient eu des problèmes, ils venaient dans cet hôpital, ou alors ils avaient des voitures, donc ils étaient partis. Elle le dit, tout ce qu'ils avaient eu à faire, finalement, c'est prendre leur voiture et appeler la compagnie d'assurance. Après, ceux qui n'avaient pas de voiture, eh ben, ils avaient pris la porte de leur frigo pour se faire des radeaux de sauvetage. Il n'y avait pas vraiment de transport en commun qui fonctionnait, puisque tout ça avait été sous-traité, etc. Ça fonctionnait très mal. Donc, les gens étaient coincés. Ils étaient coincés dans une sorte de gymnase où il y avait 23 000 personnes que la FEMA, donc toujours les mêmes qui avaient refusé de donner des fonds, n'a pas réussi à localiser pendant une semaine. Ils n'arrivaient pas à localiser les 23 000 personnes. Ce qui est quand même assez...
On a perdu 23 000 personnes aux États-Unis.
C'est ça, on a perdu 23 000 personnes. On ne sait pas où ils sont. c'est complètement dingue. Et dans cet hôpital...
Il y avait 23 000 noirs et 1 000 blancs.
Probablement, ouais. Ça devait être...
Il devait faire des recherches de nuit pour pas les trouver, c'est un truc
ça,
comme ça.
Ça devait être quelque chose dans ce genre-là, ouais.
Comme si ce sont des. Enfin bon, dans le racisme aux États-Unis, toujours.
Mais c'était vraiment intéressant. Et en fait, le médecin lui dit mais vous. Elle comprend pas trop. En fait, elle se retrouve dans cet hôpital luxueux qui ressemble à un spa. Et le médecin lui dit bah oui, c'est vrai que vous, en tant que Canadienne, vous savez peut-être pas ce que c'est, vous avez un fonctionnement. Et elle dit oui, moi j'attends 40 minutes pour voir mon médecin de famille, alors que là, il y avait tout. Mais c'est vrai que là, vous allez payer, en fait.
Bah oui.
Voilà, il m'a présenté la facture.
Forcément.
Et en fait, après la Nouvelle-Orléans.
Si on est noir, pauvre, là, on n'a aucune chance.
Aucune chance. Soit il faut prendre la porte de son frigo et vraiment aller ramer très loin avec son radeau.
Mais toi, ils te laisseront rentrer dans cet hôpital ou.
Si on est noir ?
Vitamine.
Non.
Si t'as l'air pauvre.
Ah non, si t'as l'air pauvre, bah non, on comprend pas en fait que t'es un patient si t'as l'air pauvre. On comprend pas que t'es un patient potentiel. C'est vraiment ce qu'elle dit du médecin. Qu'il était vraiment, selon elle, pas de mauvaise foi, mais il comprenait pas que le noir en question, c'était un patient. Les noirs, donc, qu'on évoquait. Mmh. Et alors, suite à Katrina, en fait, il y a la Heritage Foundation, qui est une sorte de repère de Friedmaniens, qui a émis, pour répondre à la situation, 32 propositions qui étaient directement tirées du manuel de l'école de Chicago. Donc, les revoilà. Et c'est là que Katrina est une véritable aubaine. Elle parle d'un membre du congrès républicain de la ville, qui avait, Richard Baker, qui avait tenu les propos suivants. Nous avons enfin nettoyé les logements sociaux de la Nouvelle-Orléans. Dieu a réussi là où nous avions échoué. C'est absolument grandiose, cette citation.
Répète-la.
Nous avons enfin nettoyé les logements sociaux de la Nouvelle-Orléans. Dieu a réussi là où nous avions échoué. Donc en plus, ils sont contents, ils remercient Dieu. Et l'un des promoteurs immobiliers les plus riches de la ville, qui s'appelle Joseph Canizaro, a dit un peu la même chose, en fait. Il a dit... Nous disposons maintenant d'une page blanche pour tout recommencer depuis le début. De superbes occasions se présentent à nous. Voilà, donc c'est la page blanche en fait.
Cette fameuse page blanche qui a été est arrivée avec un raz-de-marée.
Alors c'était terrible parce que quand il y avait les pauvres noirs qui étaient pas du tout d'avis que c'était une page blanche, ils travaillaient parfois pour la reconstruction de la Nouvelle-Orléans qui était sous-traitée à Halliburton.
Oui.
Mais en fait le problème.
Encore Halliburton.
Halliburton était encore là, mais le problème c'est que Halliburton flippait un peu en fait que les.
Ils s'imaginent que les trucs qu'ils étaient en train de construire seraient pour eux.
Non, c'est pas ça, mais ils flippaient que les noirs en fait se révoltent. Et finissent dans des prisons construites par Halliburton.
Ah. Dans ce cas-là, il aurait fallu trouver d'autres personnes pour reconstruire d'autres prisons.
Mais qui voulait ? À part les Noirs.
Ah oui.
C'est ça le problème, en fait.
Ah, il aurait fallu les payer plus cher, alors.
Mais sauf que ça marchait pas, en fait. Puisque, du coup, l'argent était déjà plutôt vers le haut, en fait.
Oui, bien sûr. Ouais, non, mais on reste quand même confondu par autant de cynisme. C'est-à-dire que c'est un livre qui a un côté quand même assez déprimant, il faut le dire.
Un peu. C'est un livre qui est un peu déprimant. Mais c'est un livre qu'il faudrait lire, en fait. Qu'il faudrait lire, et il faudrait lire... potentiellement Naomi Klein, en fait, parce qu'il y a pas mal de personnes qui interprètent mal, en fait, parce qu'ils l'ont pas forcément lu, ou pas forcément lu très bien, mais c'est pourtant très facile à lire. Et du coup, elle parle de vrais complots qui ont eu lieu. Elle utilise des documents déclassifiés.
Tout est public, c'est ça qui est formidable.
Absolument tout. Il y a beaucoup de sources.
Il y a rien de mystérieux dans ce qu'elle dévoile. Les sources, c'est juste. C'est ce que tu dis, c'est déclassifié. C'est en fait.
Des documents de la CIA, par exemple. Hein, vraiment, le seul moment où elle dit je pense qu'il y a quelque chose, mais on n'en est pas sûr, c'est sur les expériences sur le LSD. La seule chose que la CIA n'a jamais admise, c'est qu'ils avaient expérimenté sur des enfants. Mais sinon, tout le reste, en fait, la CIA a admis qu'ils avaient testé du LSD à dose massive sur des gens. Et du coup, le problème, c'est que ça ouvre la porte au fait de croire qu'il y a des complots partout, quand on n'a pas bien lu ce qu'elle dit.
De toute façon, si on veut croire à un complot, c'est très facile d'y croire. Mais,
elle est pas mal utilisée.
Puisque par essence, le complot, c'est quelque chose qui est caché, qu'on ne peut pas connaître.
Voilà.
Donc on peut tout à fait délirer sur ce qui est caché et inconnaissable. Mais des gens comme Chomsky ou comme comme Klein, comme Naomi Klein.
C'est l'un de leurs points communs.
Eux, sont pas du tout des, comment dire, des partisans du complot secret caché mondial, puisque ils sont plutôt convaincus que à peu près, ce qui est formidable, c'est que d'une certaine manière, tout est accessible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de supposer des gens qui travaillent dans l'ombre et qui font des choses comme ça, parce que suffit de lire les journaux, à la limite.
Il n'y a, a pas un groupe de gens dans un bureau ovale en fait, qui discutent de comment ils vont manipuler le monde, parce qu'en fait, ils n'ont même pas besoin de se cacher.
Mais leur discussion, elle est souvent publiée quelques années après.
Voilà. Mais tout le monde le sait, en fait.
Tout le monde le sait très, très vite.
Selon Chomsky, c'est juste le fonctionnement du capitalisme, en fait. Ce n'est pas un complot, il n'y a pas de complot. Il le dit, il pense qu'il y a.
Mais par exemple, là, les fonctions qu'on a dit, les fonctions, comment dire, un peu troubles de gens comme Cheney ou Rumsfeld, c'était public, tout le monde le savait. C'est-à-dire que c'était des gens qui passaient de, comment dire, de la grande industrie à un ministère et qui opéraient en toute, comment dire, en toute publicité.
Mais même ils opèrent encore. Ils ont des connaissances absolument partout, des deux côtés. Du côté de la grande industrie, des grandes entreprises, où ils ont donc des jetons de présence. La femme de Cheney, par exemple, était aux commandes d'une autre grande entreprise. Enfin, c'était incroyable. Tout est connecté du côté des grandes entreprises. Et ils ont des connexions aussi du côté de l'État, quand ils ont des postes officiels qui les occupent et qui réoccupent pendant longtemps, en plus.
Voilà, donc l'État et le capitalisme fonctionnent ensemble. Rappelez-vous-en. Et on va s'interrompre pour laisser entre chien et loup. Oui, ah oui, je peux rappeler le site. Donc vous pouvez trouver, vous trouverez donc le podcast de cette émission ainsi que de toutes nos émissions antérieures, à l'exception de deux ou trois peut-être, sur le site de José Gurdulu. Vous tapez Gurdulu jeudi noir et vous arriverez directement sur la page. Et les émissions peuvent être téléchargées ou écoutées comme vous le souhaitez. Et puis vous pouvez après faire un petit tour sur le reste du site parce qu'il y a beaucoup de musique aussi dessus. On va laisser la place entre chien et loup et puis dans deux semaines.
Au revoir.
Au revoir.
One day I'm gone.